Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Nouvelle classe, nouveaux professeurs, nouveaux amis. La rentrée, c'est une nouvelle étape qui peut enthousiasmer, mais aussi inquiéter les enfants comme les parents. Comment les accompagner sans les surprotéger et les aider à grandir dans la confiance? C'est le thème de Vivante Église aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce Vivante Église. Une rentrée, c'est toujours une nouvelle étape. Première entrée à l'école, entrée en sixième, passage au lycée, études supérieures. À chaque fois, nos enfants grandissent, gagnent en autonomie et prennent de nouvelles responsabilités. Et nous, les parents, nous devons nous aussi apprendre à changer notre manière de les accompagner. Car les préoccupations ne manquent pas, les écrans, les téléphones, les réseaux sociaux, le harcèlement, la pression scolaire, l'orientation, l'avenir. Alors comment protéger nos enfants sans les enfermer? Comment poser un cadre qui sécurise tout en leur permettant de grandir? Et surtout, comment les aider à traverser leurs propres inquiétudes? Pour en parler, j'ai le plaisir et la joie en cette rentrée 2026 de recevoir au micro dans ces studios Isabelle et Benoît Dacrevreit. Bonjour Isabelle.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes coach de vie, infirmière de formation et formatrice en santé, en éducation affective, relationnelle et sexuelle. Vous accompagnez notamment des adolescents et des familles. Bonjour Benoît.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes vous-même coach professionnel et conseiller conjugal et familial, et vous accompagnez des couples, des familles et des jeunes aussi dans ces grandes étapes de la vie, des étapes de croissance. Grandir dans la confiance ensemble, c'est ce thème de rentrée. Isabelle, qu'est-ce qui inquiète le plus les familles aujourd'hui?
Bonne question. Alors aujourd'hui, moi je dirais ce qui inquiète les parents, c'est l'environnement dans lequel les enfants vont être. C'est-à-dire ce qu'ils vont croiser sur leur chemin qui pourrait leur faire du mal. Et moi, je pense à la violence. Je pense que les parents sont assez inquiets, en tout cas ceux que je croise, même dans nos familles, sont assez inquiets sur l'agression sexuelle. On en parle beaucoup. Et ça les... Je pense que pour certains, ça les mine de l'intérieur, C'est vraiment un gros sujet, c'est un sujet d'actualité, donc tout sujet d'actualité vient un peu nous envahir en fait. Et c'est assez réel, on peut dire quand même qu'on a plus peut-être d'agressions sexuelles qu'il y a peut-être 20, 30, 40 ans. Voilà. Ils ont aussi peur pour leurs enfants, mais ça je pense que ça a toujours été peur de... Moi j'entends beaucoup de parents qui disent « moi mon enfant il est très influençable ». Ils ont beaucoup peur que l'enfant ne puisse pas dire non, ne puisse pas se positionner, ne puisse pas... Et on va voir combien c'est important quand même. Bon, d'abord, l'influence, c'est hyper important. Moi, je milite pour l'influence parce que nous, parents, nous sommes influents sur nos enfants. Nous influençons la bonne chose. Regardez Radio Présence, c'est une radio d'influence.
C'est une bonne odeur, hein,
Voilà, exactement. L'influence, elle est positive et c'est comme ça qu'on se construit d'ailleurs.
Et qu'on grandit.
Qu'on grandit.
Et on grandit en confiance.
Bien sûr, il y a l'influence négative. Et là, il va falloir savoir discerner, de pas, voilà, peut-être pas y aller. Est-ce que ça me fait du bien, etc.
Donc les parents ont un rôle à jouer. Benoît, est-ce que vous avez le sentiment que les parents eux-mêmes sont plus inquiets qu'avant?
Alors, Isabelle a parlé de ce contexte anxiogène. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte dans lequel vivent les parents, les enfants eux-mêmes sont dans un contexte anxiogène, dans une culture qui leur dit que tout va mal, que ce soit l'écologie, que ce soit les guerres et les violences qui ne donnent pas l'exemple de relations pacifiques, que ce soit le harcèlement, les problématiques... de violence quotidienne. Et en fait, ils sont dans un climat anxiogène. Après, je pense que de tout temps, il y a eu des raisons de s'inquiéter. Et je pense que fondamentalement, les parents sont inquiets. Et ça fait un peu partie de leur fonction, je dirais. C'est normal de se préoccuper pour ses enfants et d'être attentif au fait que les enfants sont fragiles, ils sont en construction. Donc, en effet, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin d'être protégés. Et donc l'inquiétude des parents est bien légitime parce que elle est le reflet de ce sens de la responsabilité et de cette conscience de la fragilité des enfants et des jeunes. Fragilité qui est différente selon les âges, qui est sur des sujets différents. Mais voilà, la fragilité du jeune qui va pour la première fois prendre des transports en commun ou aller à l'école tout seul, la fragilité du jeune face à ses choix et ses décisions d'orientation quand il est plus grand. En effet, on s'inquiète pour nos enfants.
Donc on peut rassurer Benoît et Isabelle, pour les auditeurs qui sont parents et qui sont au fond des éducateurs, appelés aussi à accompagner l'enfant dans ce moment de croissance pour grandir dans la confiance. C'est normal d'être un peu inquiet quand on est parent. Rassurez-les s'il vous plaît.
L'inquiétude est normale et c'est pas un mauvais signe. En revanche, qu'est-ce qu'on va transmettre à l'enfant?
Donc, est-ce qu'il faut travailler quand on est parent sur cette inquiétude qui peut être parfois un peu débordante et omniprésente et tout absorbée de négatif?
Surtout si elle est débordante. Surtout si elle est débordante, si elle est viscérale, si on ne sait plus quoi en faire, si elle est angoissante, si ça nous paralyse, etc. Là, il y a bien sûr quelque chose à faire. D'abord, de la part du parent, des parents. Bah, d'abord, déjà, on en parle parce que déjà, son conjoint pense peut-être pas pareil. Souvent, la maman, elle a un petit peu plus peur que le papa, parfois. Ça peut être ça aussi. Donc déjà, c'est ce dialogue entre les deux. Voilà. Et puis parfois, on a été nous-mêmes, agressés ou mis à l'écart à l'école, etc. Donc, en fait, il faut qu'on fasse ce petit travail parce que c'est pas parce que moi j'ai vécu ça que mon enfant va vivre ça. Par contre, je risque de vouloir surprotéger mon enfant si moi-même j'ai pas réglé cette histoire de harcèlement, par exemple.
Puisqu'on parle aussi, permettez-moi de protéger, et parfois on surprotège quand on est parent, on entend souvent les parents dire « j'ai peur qu'il y arrive quelque chose, je veux éviter qu'il souffre ». Cette peur est évidemment très compréhensible, Benoît et Isabelle, mais pour les parents qui vous écoutent aujourd'hui, maintenant, en cette rentrée, quels sont les moyens pour éviter de tomber dans cette panique qui peut envahir au fond tout un foyer? Et paralyser tout un foyer.
Je rebondis sur cette peur et je voudrais éviter qu'il souffre. Parce que là, il y a une clé. Est-ce qu'on va éviter à nos enfants d'être confrontés à la souffrance, à l'épreuve? Non, et même vouloir rêver d'un cocon où l'enfant ne vive aucune souffrance, ce n'est pas lui rendre service. En revanche, il ne faut pas lui sauter la souffrance, bien sûr. Mais on va l'accompagner pour qu'il sache et lui faire confiance dans le fait qu'il sache réagir, qu'il sache se confronter aux épreuves à la mesure de ce qu'il est appelé à vivre dans sa croissance. Et donc, l'accompagner dans ce chemin-là. Et c'est ça qui nous fait peur. Parce que nous-mêmes, on a peur de souffrir. Nous-mêmes, on a nos propres, ça résonne avec nos propres difficultés. J'accompagnais un jeune père qui s'inquiète pour son jeune adolescent parce que il a peur qu'il se fasse pas de copains, qu'il soit rejeté. Mais ce père lui-même a de la difficulté dans ses relations à être pleinement accepté il a le sentiment que il voudrait pouvoir être pleinement lui-même, mais il se suradapte. Et donc ses peurs à lui, finalement, réjaillissent sur l'inquiétude qu'il a pour son enfant, inquiétude légitime. Mais comment est-ce que je vais accompagner mon enfant pour franchir cette difficulté? Je vais peut-être faire un travail sur moi pour comprendre comment je gère mes propres peurs. Et au lieu d'avoir une exigence sur notre enfant en disant « je voudrais qu'il évite cette épreuve », et donc qu'il soit pleinement confiant en lui, etc. Il n'y a pas de raison, machin, etc. Non, accueillir que moi-même je suis fragile, donc dans ma fragilité, comment est-ce que je fais? Et dialoguer avec le jeune. Il a le droit d'être fragile lui aussi.
Au fond, tout le monde a le droit d'être fragile, parents comme enfants.
Mais on l'est tous.
Et on est tous
en fait,
fragiles.
C'est pas qu'on a le droit, c'est qu'on est fragile.
Parfois, il faut s'autoriser.
Un être humain, c'est fragile.
Ouais.
Et moi, je dirais aussi que les épreuves c'est un peu différent des souffrances, mais les épreuves de la vie vont aussi nous façonner. C'est-à-dire que voilà, je traverse quelque chose, j'ai traversé une épreuve et je m'en suis sortie. Et c'est ça qu'il faut montrer aux jeunes, c'est comment on a traversé cette épreuve et du coup, qu'est-ce que j'ai mis en place pour traverser ces épreuves. Ça peut être la famille qui est un soutien, ça peut être aussi mon énergie, ça peut être n'importe quoi. Enfin bon, voilà, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour traverser cette épreuve que je pourrais mettre en œuvre pendant la prochaine épreuve. Hein, et ça qui est beau de voir nos enfants grandir, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes talents que nous. Et donc beaucoup leur renvoyer en disant, mais qu'est-ce que tu pourrais faire dans cette situation ? Parce que moi, je ne vois pas de solution pour toi. Mais toi, tu en as peut-être. Et vous allez voir que les enfants sont incroyables. Ils ont des tas d'idées.
En fait, le jeune oscille entre deux sentiments. Un sentiment d'extrême fragilité, extrême vulnérabilité, où il ne se sent pas à la hauteur. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de ne pas être à la hauteur des attentes que peuvent avoir ses copains sur lui.
Et
des
les
attentes
parents aussi.
Ses parents ou ses éducateurs sur lui. Donc, il se sent pas à la hauteur, nul, machin, manque de confiance. Et puis, il a quelquefois aussi un peu ce sentiment ou ce fantasme d'invulnérabilité, qu'il est plus fort que tout, etc. Il oscille entre les deux.
Ça, c'est la période normale de l'adolescence aussi. L'adolescent est en construction.
Exactement. Et le parent, comment est-ce qu'il va aider le jeune à gérer ça ? Si il se présente comme un parent qui n'a jamais de problème, qui a toujours des solutions, qui est sûr de lui en permanence, etc., ben, il devient une statue du commandeur complètement inaccessible. Et donc, il n'aide pas le jeune à se construire en confiance. Le jeune aura toujours l'impression qu'il ne peut jamais être à la hauteur. Il ne pourra jamais être adulte. Si être adulte, c'est être parfait et invulnérable. Or, nous-mêmes, nous ne le sommes pas.
Donc, il ne faut pas avoir peur de cette vulnérabilité. C'est ce que nous pouvons entendre dans cette
émission. Et pouvoir dialoguer avec le jeune en consentant à dire aussi nos doutes, nos fragilités, et à dialoguer avec le jeune, parce que ça lui donne le droit d'être fragile et donc de trouver ses solutions lui-même.
Alors, bien sûr que la solution du dialogue est importante, mais quand on est en difficulté, quand on est parent, dans une famille, mais en difficulté justement sur ce point très précis que vous abordez, le dialogue. Comment s'y prendre ? Je rebondis.
Quand on a des difficultés de dialogue déjà avec notre enfant, je pense que c'est là qu'on revient un peu à l'influence. C'est-à-dire que si moi je dialogue avec mes enfants quand je rentre du travail, si je leur pose des questions, si je raconte ma journée, si je dialogue avec mon conjoint sur comment tu vas, c'est fluide entre nous. C'est pas toujours en train de parler, c'est ajusté. Hein, on se parle, on échange, on a des temps de complicité, mais on a aussi des temps de silence, etc. On montre aux jeunes que la communication, elle peut être fluide. Et qu'il y a des moments où on peut aussi s'enfermer dans sa chambre, c'est pas grave. Je pense que parfois les parents ne voient pas tout ce que le jeune dit. Hein, parce que ça va pas être sur le sujet, ça va pas être sur le machin. Mais repérons aussi ces moments de dialogue. Et aussi, quels ont été les moments, qu'est-ce qui a favorisé le dialogue ? Parce qu'on voit bien que nous, même en couple, quand on est crevé, quand on est malade, quand on est stressé, on ne va pas parler, ou pas de la bonne façon. Donc, avec nos jeunes, c'est pareil. Quand ils rentrent du lycée et qu'il en a ras la casquette parce que ça ne s'est pas super bien passé, ou parce qu'il a envie de faire un break, c'est peut-être pas le moment de discuter avec lui. Donc, il faut déjà repérer ça. Hein. Et ensuite, après, quand il y a des difficultés, des plus grosses difficultés, qu'on a tenté des tas de choses, après, on peut se faire accompagner dans le couple pour essayer à désamorcer ça. Et peut-être accompagner le jeune aussi. Hein. Oser dire.
C'est de bonnes clés, de bonnes solutions. Mmh. Alors, cette rentrée, on ne peut pas aborder tous les sujets pour cette rentrée. Hein. Voilà, on ne peut pas résoudre aussi toutes les difficultés, toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les inquiétudes des parents. Mais on va essayer, si vous le voulez bien, de poursuivre ce Vivante Église en donnant cette dynamique ou rappelant aussi ô combien la confiance est importante pour que l'enfant qui devient adolescent, qui devient aussi un jeune adulte, cette rentrée marquée par le téléphone portable et l'interdiction du téléphone portable dans les établissements scolaires. Alors, comment apprendre? Et ça, je pense que les parents sont parfois aussi soucieux, inquiets devant ces enfants, ces adolescents, ces plus grands, devant cet écran et ce téléphone. Comment apprendre, en fait, à son jeune à utiliser son téléphone, à bien utiliser, au fond, tous ces écrans et tous ces contacts avec les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous écoutez dans vos démarches, hein, Isabelle et Benoît?
En fait, ce qui est déjà compliqué, c'est même aussi l'utilisation de l'IA. Hein, beaucoup le sujet de...
Bien voilà. Sûr.
Mais oui, ce qui est compliqué, je trouve, pour les parents, alors peut-être un petit peu moins maintenant, parce que je commence à vieillir, mais nous, en tout cas, quand nous étions ados, nous n'avions pas de téléphone. Donc déjà, des parents qui ont eu un téléphone quand ils étaient ados, ils arrivent déjà à mieux se rendre compte de l'enjeu et donc ils sont un peu passés par là. Et ils ont d'autres clés que peut-être Isabelle qui, elle, n'avait pas de téléphone portable quand elle était ado. Et ça fait une vraie différence. Donc on n'a pas l'expérience d'avoir vécu cette histoire de téléphone quand on était ado. Donc il faut qu'on invente un truc. Il faut inventer quelque chose. Et après, c'est assez facile à dire vrai, moi je trouve, c'est que voir comment moi j'utilise mon téléphone. Comment mon conjoint utilise son téléphone. Et on voit que nos ados, ils ont les mêmes problèmes que nous.
Exactement. Et c'est une clé, c'est l'exemplarité. Et c'est... peut-être que si on éprouve le besoin de protéger nos enfants des écrans et de cette capture de l'attention par l'écran, parce qu'on sent bien qu'on est captivé nous aussi. Et donc, quel est notre propre rapport aux écrans, aux téléphones portables, et que ce soit pour des choses superficielles ou pour le travail aussi. Est-ce que notre téléphone envahit notre espace privé parce que je ne peux pas me permettre de ne pas répondre? Et donc, finalement, le téléphone prend le pouvoir, cet objet, cette communication externe prend le pouvoir. Alors, si mon employeur prend le pouvoir sur la chambre conjugale en s'introduisant dans l'intimité parce que je ne peux pas me permettre de louper un appel, qu'est-ce que je vais penser du groupe de jeunes et des groupes de réseaux sociaux qui s'introduisent dans la chambre du jeune et qui viennent le harceler jusqu'au cœur de son intimité? Comment est-ce que moi je gère les limites que je me pose pour me respecter, et comment est-ce que, du coup, je vais pouvoir apprendre aux jeunes à gérer les limites et se faire respecter et ne pas se faire envahir? Là, il y a une question, et c'est notre éducation passe essentiellement par l'exemple, beaucoup plus par nos paroles.
Cet exemple dans la vie ordinaire et quotidienne de tous les jours.
Oui, ce que l'on est parle plus fort.
On est regardé, les parents sont regardés, les parents sont observés.
Et puis moi,
observés.
Je trouve qu'il faut vraiment rappeler que quand on est à la maison, on est protégé. Hein, on a des portes, on a des verrous, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, on est en sécurité. Or, avec le téléphone ouvert, les réseaux sociaux sur Internet, en fait, les jeunes ne se rendent pas compte qu'en fait, ils ne sont plus en intimité, ils ne sont plus en sécurité. Et c'est comment on arrive à refermer, en fait, ces portes la nuit, certains moments de la journée, etc., pour les protéger. Protéger de l'extérieur, hein, mais aussi parce que ce qui est important, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, il faut aussi faire l'expérience de la solitude. Et ça, on oublie souvent hein, dans l'éducation, que l'expérience de la solitude nous permet de réaliser qu'on existe nous-mêmes. En fait, c'est qu'on a une conscience de soi et avant d'être dans un groupe. Hein, quand on est dans un groupe, on est dans un groupe. Des fois, on oublie qu'on est soi. Hein, c'est ça qui fait qu'on peut faire des conneries. Mais voilà, pouvoir avoir des temps où on réfléchit. Moi, je me souviens d'un jeune, je ne sais plus, troisième, je crois. Il a regardé toute la classe, puis il leur a dit « Non, mais ne me dites pas que je suis le seul, moi, le soir, à me dire dans mon lit, mais pourquoi j'existe, mais je suis qui, etc. » Et les autres l'ont regardé un peu avec des yeux bizarres. Il a l'air un peu bizarre. Celui-là. Mais c'est vrai, voilà, on est seul dans son lit et on se pose ces questions-là. Ben, ça, c'est important.
Alors, avant de nous retrouver pour la suite de ce Vivante Église et cette pause musicale dans un instant, dernière question, toujours autour de ce fameux téléphone, voilà, qui est parfois comme un doudou hein, pour certains. Hein, on ne le lâche pas.
C'est même une extension de notre main.
Voilà. Peut-être un petit mot pour les parents qui vous écoutent, hein, mm-hmm. qui sont effectivement, parfois, ils n'arrivent pas à contrôler. C'est ingérable, ce téléphone. Mm-hmm. Et donc, ils sont en panique. Ça crispe toute une famille. Mm-hmm. Et jusqu'au parfois, des tensions, mm-hmm. des disputes. Mm-hmm. Dernier conseil avant de se retrouver dans...
Ben, il faut donner un cadre. Moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Il faut trouver un cadre en famille. Je trouve que ça, c'est important de dessiner d'un cadre ensemble. Tout le monde donne un peu ses arguments. Et il y a une négociation, hein, parce que papa et maman, ils voudraient
donc
ça.
Donc, il y a une forme de contrat. Hein.
Mais c'est un contrat et on essaye de s'y tenir.
Il y a un cadre et puis expérimenter la déconnexion. Avoir le droit à la déconnexion, c'est l'expérimenter. L'expérimenter à petite échelle au quotidien, quels sont les moments où je n'ai pas besoin du téléphone portable, où je m'en prive, mais peut-être expérimenter sur des durées plus longues, par exemple une semaine de déconnexion totale en
une
allant
semaine.
Faire de la rando,
bah oui,
en allant faire
en vacances,
de la rando en famille.
Pour petits et grands.
Voilà. Les petits et grands,
et, c'est ça. Et où on expérimente un autre rythme de vie, une autre... Alors, j'ai peut-être l'impression de pousser à l'extrême, mais ça peut être des moments précieux en famille de permettre à tout le monde d'expérimenter... Bah, quand on est déconnecté, qu'est-ce que ça rend à nos relations?
Et pour une autre connexion peut-être avec la nature.
Nature, le jeu, la relation.
Ouais, le jeu aussi, tout à fait. Alors on va essayer, on se déconnecte quelques minutes, le temps d'une pause musicale, et puis on se reconnecte juste après pour cette rentrée-là qui est importante. Et c'est une rentrée pour tous, hein. On parle des enfants, des parents, c'est une rentrée pour les associations, pour tous les âges de la vie presque.
Oui.
On se retrouve juste après.
Je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière dans le dos.
J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas, immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour, je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeunes et dociles, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans, et je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur. Non pas des liens mais du pire. Monte les mers, fane les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent et tout ça ne changera pas. C'est fini les lèvres, fini les rêves, fini les dix papas. Toi qui as vécu 1000 vies, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que la vie se vit au paradis ou ici-bas?
Maintenant, mais pas après. Chéri, l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur. Faut vivre mieux maintenant, mais pas après. Chéri, les gens, balaye les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure, tant mieux.
J'ai fait mon sac 100 fois. Un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pensais jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné. Jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret. C'est maintenant, mais pas après. Chéri, l'instant, balaye le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chéri, les gens, balaye les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure,
tant mieux.
Certains voudraient vivre vieux.
Moi je veux partir
heureux.
Ah, superbe.
Ah oui, superbe.
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
C'est un retour, effectivement, dans cette émission de Vivante Église. Je suis en compagnie d'Isabelle et Benoît Dacrevrait autour de ce thème. Et c'est un thème de rentrée que nous avons choisi, grandir dans la confiance ensemble. J'ai presque envie, on a parlé des inquiétudes, des peurs. On a parlé aussi, juste avant cette pause musicale, aussi d'un contrat qui pourrait peut-être parfois, dans le dialogue, bien sûr, dans l'écoute mutuelle, être posé en famille. Et on va profiter, si vous le voulez bien, Benoît et Isabelle, de cette rentrée, peut-être pour peut-être réfléchir sur le bon contrat pour cette rentrée, ne pas partir accompagner ses enfants, contrôler peut-être pour arriver à une certaine autonomie, hein, parce que l'enfant est fait pour grandir, voilà, et grandir, c'est le cœur un peu de l'émission. Si on devait retenir dans ce Vivante Église aujourd'hui, pour cette rentrée, c'est la confiance qui est importante.
Bien sûr.
Voilà. Alors, quel est le bon contrat pour cette rentrée, Benoît et Isabelle, avec aussi vos expériences aussi respectives, puisque vous accompagnez des familles, des couples, des enfants et des adolescents. Isabelle, peut-être ?
Le bon contrat, je ne sais pas ce que ça veut dire, le bon contrat.
Alors, comme tout contrat, avant de signer, on réfléchit, on se pose, on lit bien son contrat, et puis peut-être on dialogue.
Oui, moi, je retiendrai, avant d'établir un contrat, on va dialoguer. Et il faut que les deux parties soient d'accord. Donc, c'est qu'on on est trouvé un terrain d'entente. Et ça, c'est important parce que le parent, il va donner son cadre. Alors, attention à ses peurs, qui peut être un cadre un petit peu... Parfois, le cadre peut être très dur. Hein, où... Après, c'est normal. Un parent, il pense que son enfant est jeune. Il n'a pas vu grandir son enfant. Hein. Quand on a un jeune de 16 ans, hein, on va peut-être lui donner un cadre, nous, parents, spontanément, de... 13, 14, parce qu'on ne l'a pas vu grandir encore. Hein. Mais le jeune, il a 16, et donc lui, son cadre, il va être plus large. Donc il va négocier. Enfin, je le souhaite en tout cas, parce que je connais des jeunes qui ne négocient pas, hein, qui acceptent.
Donc mais c'est important, qui va se passer le jeune doit négocier. Ah, c'est un signe, permettez-moi, mais de bonne santé.
C'est un signe de bonne santé, ou en tout cas d'estime de soi. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut dire... ce dont il a besoin.
Qui peut s'autoriser.
Il peut s'autoriser à dire ce dont il a besoin sans penser qu'il va faire de la peine à ses parents.
Hein. Et donc, il faut qu'il sente qu'il peut s'autoriser ça, que le dialogue est ouvert. Si on pose un cadre trop rigide, est-ce que le cadre, il est là pour aider l'enfant à grandir, pour le protéger de risques effectifs, ou est-ce que c'est là pour protéger notre sécurité intérieure, notre tranquillité, pour être sûr qu'il n'affronte aucun danger. Et alors, on rigidifie le cadre et on l'empêche d'en sortir. Or, l'enfant a besoin de sortir du cadre pour se construire son propre cadre.
De repousser, en tout cas.
De repousser. Il a besoin de conquérir son autonomie et donc d'être capable, si on veut qu'il soit vraiment responsable, il doit être capable de gérer peu à peu son cadre lui-même. Au cours de la vie, il va conquérir cette autonomie et donc il va passer par des étapes. Je crois que c'est important d'avoir en tête ces étapes de l'autonomie parce qu'au début, on sent que notre enfant est totalement dépendant. Il faut qu'on lui dise tout, qu'on lui donne tout, qu'on lui apprenne à vivre. Il a tout à apprendre et donc il est dans une dépendance totale et on a envie de l'enfant bien obéissant qui fait ce qu'on lui dit parce qu'on sait ce qui est bon pour lui. Et on voudrait qu'il passe directement de cette étape à l'étape du jeune pleinement responsable, qui est capable de prendre en compte les autres, de savoir la conséquence de ses actions sur les autres, etc. Et donc pleinement interdépendant avec les autres dans la relation. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'en fait, en rêvant ça, on a envie qu'il soit autonome à notre manière. Donc, on a envie qu'il soit notre clone.
Donc là, on n'est pas tout bon.
C'est pas tout bon du tout.
C'est pas bon du tout. Donc, chers parents qui écoutaient ce Vivante Église aujourd'hui, notez bien. Hein, voilà.
Il va commencer par obéir, bien sûr, pour apprendre. Et puis, à un moment, il va dire non.
Et ça, c'est bon signe.
Et ça, on le voit.
Il va s'autoriser à dire non. Permettez-moi, celui qui ne s'autorise pas à entrer un peu dans cette opposition, dans ce non, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit du foyer ? Qu'est-ce que ça dit de papa-maman ? Qu'est-ce que ça dit du jeune qui ne s'autorise pas ?
Il y a une difficulté dans le dialogue, ou en tout cas, aider le jeune, ça peut être aussi un jeune qui est tellement réservé, tellement qui veut toujours faire plaisir. On lui dit qu'il faut toujours faire plaisir et qu'il faut toujours être bien avec les autres, etc. Donc, il ne va pas oser aller casser le cadre. Ou alors, un cadre trop rigide, et il va trouver des contournements pour casser le cadre, mais sans le dire, ce qui n'est pas mieux. Il est normal qu'il veuille sortir du cadre, et surtout qu'il veuille dire « Non, maintenant c'est moi qui décide. J'ai besoin de décider moi-même. J'ai besoin de ne pas faire qu'obéir, mais de sentir que j'ai de l'importance. » C'est une question existentielle. C'est d'affirmation de soi. Et donc l'estime de soi, elle s'appuie sur cette capacité à s'affirmer, à être dans l'affirmation de soi. Et donc il faut consentir à ce qu'il contredise. Ce n'est pas un mauvais signe. Ça veut dire qu'il commence à exister par lui-même.
Et au fond, bah, il commence
et donc,
à grandir.
Dialoguer.
Bah, oui,
et
c'est
donc,
ça. Mais
Isabelle, face je crois qu'on a à ce plein... nom, le responsabiliser dans le dialogue.
Isabelle ?
Oui, en fait, ce dont parle Benoît, c'est le sac de l'autonomie. On va le voir à tous les âges. Que ce soit quand on commence à manger tout petit, on a la même chose. Il se laisse manger, il accepte la cuillère. À un moment donné, il prend la cuillère, il en fout partout. Et puis après, bah, il arrivera à manger proprement et voir à essuyer sa table. Ou bah, à l'adolescence, c'est pareil. Il est responsable de son vélo, il répare son vélo, etc. Il respecte le code de la route. Enfin, il y a plein de choses. On ne met pas son casque, mais finalement,
il
met pas son
casque. Il y a des choses importantes qui se jouent à ce niveau-là. Et donc, je finis juste les étapes pour les avoir en tête, parce que c'est important de pouvoir... il faut donner le cycle complet. Il y a cette étape donc, de la contre-dépendance, de l'opposition, où le jeune va s'affirmer par lui-même, et c'est une question existentielle. Et là, il faut consentir à la contradiction, en faire une occasion de dialogue, et continuer à questionner le jeune, le responsabiliser, en fait. Le responsabiliser en lui posant les questions sur les conséquences, donc lui donner la conscience des conséquences de ses actes. Et puis à un moment, il va dire, oui, non, mais j'ai même plus envie de contredire, j'ai envie de faire comme je veux. Donc c'est moi tout seul. Moi tout seul, je me débrouille.
Je fais ce que je veux quand je veux.
Il va prendre ses distances.
Voilà, cette
liberté. Il va jouer l'indépendance, il va vouloir faire sans nous.
Le grand.
Si on cherche à trop voir, il va se cacher pour pouvoir faire par lui-même, etc. Et là, il faut consentir à ce qu'il prenne de la distance et qu'il fasse lui-même, tout en étant là, à disposition, donc rester présent, garder le lien, mais sans exiger qu'il fasse avec nous, etc. Il a besoin de faire par lui-même, et c'est une question de confiance. Au départ, c'était l'existence, le fait d'exister par lui-même. Là, c'est une question d'avoir confiance en lui, de construire sa confiance en lui en faisant lui-même. Mais, bien sûr, en faisant tout seul, sans prendre en compte les autres, il va découvrir que ça frotte, que ça rentre en conflit, et donc il va redécouvrir la nécessité de prendre en compte les autres et d'être dans l'interdépendance. Et là, il va arriver à une véritable autonomie où c'est lui qui est en interdépendance. C'est pas nous qui lui disons comment faire.
Alors, merci, vous avez donné plein de clés dans ce Vivant d'Église pour la rentrée. Mmh. Les parents ont parfois l'impression de devoir tout gérer, les écrans, les émotions, les relations, les difficultés, les devoirs aussi. Est-ce que les parents doivent vraiment tout porter ou qui peut prendre le relais quand il y a peut-être un épuisement, un découragement ou... une perte de confiance en tant que parent.
C'est sûr qu'il y a beaucoup de vigilance, en fait. Le parent, il doit être vigilant sur pas mal de choses. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout porter. Je pense pas les aides de devoir, par exemple. Ça peut être... je crois... Alors, je ne sais pas si c'est masculin, féminin, mais j'ai l'impression que les mamans veulent tout contrôler, souvent. Elles veulent avoir... voilà. Et moi, je me souviens une fois, un de mes fils nous avait dit... sixième. Là, maintenant, c'est fini. Tu ne rentres plus dans ma chambre, tu ne viens pas vérifier mes devoirs. Ça fait un peu bizarre, mais on lui a fait confiance, puis on a vu que ça fonctionnait. Mais on a quand même essayé de vérifier un peu. Alors voilà. En fait, ça va dépendre des enfants. Et des enfants, il faudra s'asseoir pendant tous leurs devoirs parce que ça les aide. D'autres, il faudra les laisser faire. Je pense qu'il faut s'adapter un petit peu à chacun et tout en mettant beaucoup de confiance là-dedans. Et n'oublions pas que dans la confiance, il faut quand même vérifier.
Hein, je
dis contrôle parce que confiance, contrôle, ça se commence pareil. Hein. Voilà, il y a toujours cette notion de contrôle pour gagner en confiance.
C'est-à-dire que c'est pas une question d'oppression, de contrôle oppressant, mais en fait, en s'intéressant,
s'assurer.
Je dirais, en s'intéressant à ce que fait l'enfant, peut-être qu'il va nous trouver présents, mais en fait, il dit, j'ai de l'importance à vos yeux. Il comprend qu'on n'est pas indifférent. Donc, rester présent, c'est important. En revanche, dans cette phase de l'indépendance où il veut faire sans les parents, ben, on se sent un peu démuni et surtout remonte l'anxiété de l'influence. Si je ne suis plus celui qui dit à l'enfant comment faire, mais qui va lui dire? Et quelles sont les influences qu'il va subir? Et là, on peut manquer de confiance envers l'influence des réseaux sociaux, envers l'influence des copains, quelquefois envers l'influence de l'école en se disant ben, toutes les valeurs qui sont portées ne nous conviennent pas. Qu'est-ce qu'on met en place pour permettre à l'enfant d'avoir des relais, des relais de confiance où on sait qu'il aura, il sera sous une influence cohérente et il trouvera, ou le jeune trouvera d'autres jeunes avec lesquels il se retrouve et où il partage ces mêmes valeurs, cette même confiance, etc. Donc, qu'est-ce qu'on met en place comme autre relais pour ne pas être toujours...
Donc, penser à d'autres relais.
Oui, moi, je pense à une étude que j'ai lue hier, l'étude PISA, sur les réussites scolaires. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, un enfant va être plus dans la réussite scolaire si ses parents lui disent « Qu'as-tu appris aujourd'hui ?» C'est pas le suivre les devoirs. C'est pas « Montre-moi tes devoirs, être à côté. » C'est « Dis-moi ce que tu as appris aujourd'hui. » De faire parler le jeune sur ses apprentissages de la journée.
Donc, je m'intéresse aux jeunes.
Je m'intéresse aux jeunes.
Je m'intéresse.
Et le jeune s'intéresse au savoir et à ce qu'il a appris. Vous voyez ? Et en fait, c'est faire confiance aux jeunes. Et ça, c'est dans l'étude. Moi, c'était incroyable d'entendre ça, quoi.
Ah, c'est intéressant. Alors, on ne peut pas ouvrir tous les angles. Oui, c'était très... Je n'étais très sûre, voilà. Et je pense un peu à tous ces parents qui ont des étudiants. Il y a une rentrée qui est particulière, celle du jeune qui quitte la maison. Et voilà, et c'est peut-être le petit dernier pour ses études. Alors, comment accompagner un peu ce départ sans tomber dans le contrôle? Voilà, ça, c'est quand même un petit volet que je souhaitais ouvrir à la fin de ce vivant.
C'est un vrai sujet, hein, parce qu'on croit, enfin, je sais pas, mais parfois on croit que ça y est, ils sont partis. En fait, ils sont pas partis du tout. Ils sont toujours là, hein, et on doit continuer à les accompagner à distance.
Donc,
souvent, c'est peut-être la difficulté.
Accompagner, encore dans cet accompagnement, mais on peut dire, donc on fait confiance, mais on contrôle.
Mais alors,
et à distance.
C'est-à-dire,
non,
c'est pas en contrôle, c'est pas... on est présent.
On est présent.
C'est être présent, c'est...
C'est faire confiance.
Ben, c'est toujours pareil, c'est comment t'es passé ta journée, pouvoir les appeler sans les harceler, j'ai besoin de tes nouvelles, mais voilà, est-ce qu'il en a besoin? Enfin, vous voyez, c'est cette juste distance. Moi, j'ai toujours été surprise de pas m'apercevoir que finalement, ils avaient encore vraiment beaucoup besoin de nous cette première année, en tout cas, où ils quittent le nid. Le lien papa-maman, comment je fais la cuisine, et l'administration, des trucs qui nous paraissent faciles.
Alors,
pour eux, c'est compliqué.
Je pense à des parents, c'est une période, une étape très compliquée. Peut-être que certains parents vivent cette période et ils le vivent plutôt mal. Quel conseil, comment un peu les accompagner, ces parents qui vivent mal ce départ?
On a peur qu'ils fassent de travers ou on a peur qu'ils ne soient pas assez responsables. On a peur que... Et en
encore,
fait, on va projeter,
encore la peur.
On va projeter cette peur au lieu d'accompagner toujours ces étapes d'autonomie. Est-ce qu'il a choisi la bonne voie? Est-ce qu'il va faire attention à ses relations, etc. Il faut consentir à ce qu'il vive par lui-même et permettre de dialoguer. Et plus on cherchera à cadrer et contrôler pour empêcher qu'il prenne des risques, plus il va aller chercher cette indépendance où il va couper le dialogue pour pouvoir faire par lui-même. Comment est-ce que je continue de consentir à ce qu'il fasse des choix différents, à ce qu'il se comporte différemment et pouvoir dialoguer avec lui?
Et puis l'autre problématique, c'est quand notre enfant part de la maison, c'est que, surtout si c'est le dernier, ce qu'on appelle le nid vide, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on croit, hein, parce que c'est pas vrai, mais on croit qu'on n'a plus notre rôle de parent, que c'est fini, hein, que la maison est vide, que je ne sers plus à rien, parce que je ne lave plus de culottes ni de chaussettes, parce que je ne fais plus à manger pour machin. Et c'est pas vrai, parce que notre rôle éducatif, il est toujours là. Je sais que pour certains, c'est très compliqué. Il peut y avoir une dépression, du nid vide, ça c'est vrai. Faut vraiment se faire accompagner, hein, pour pouvoir continuer de jouer ce rôle de parent à distance.
De nos enfants. Voilà, donc garder le lien sans infantiliser le jeune adulte. Ah, oui. Parce que ce départ vers une vie d'étudiant, c'est une étape aussi de croissance dans cette vie d'adulte.
De juste distance que le jeune prend. Hein. C'est nécessaire de prendre cette... On parlait de juste proximité peut-être avant, mais petit à petit, ce jeune, il va prendre de la distance qui est nécessaire.
Pouvoir être dans l'émerveillement et la gratitude. Transmettre au jeune l'émerveillement qu'on a face au chemin qu'il prend. Savoir voir d'abord ce qui est positif pour que lui il puisse s'appuyer sur ses points forts et ses points positifs de manière à pouvoir ensuite lui l'accompagner pour trouver des voies de progression. Mais d'abord le positif. Et parce que c'est ce qui va fonder sa confiance et le responsabiliser.
Alors, qu'est-ce qu'on inscrit ? Cette émission arrive à sa fin. Isabelle et Benoît d'Agrevaille, je vous remercie d'avoir été présents pour cette rentrée. Et puis, on en profite aussi pour souhaiter une très, très bonne rentrée à vous tous, chers auditeurs, qui rentrez aussi dans vos lieux de travail. Hein, voilà, pour aussi les seniors qui sont engagés aussi parfois dans des associations et des grands-parents qui sont aussi des acteurs vivants auprès de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Un mot de fin, on parlait de contrat. Qu'est-ce qu'on met comme mot très court
Moi, je dirais une phrase de Saint Paul, c'est « Parents, n'exaspérez pas vos enfants ». Moi, je trouve que ça, c'est une belle ligne de conduite.
Mm-hmm. Benoît.
Et voilà, moi, l'émerveillement et la gratitude et le pardon, ce sont des dimensions de la relation qui sont... Ils font grandir.
Merci infiniment. Et puis on vous souhaite, hein, Benoît et Isabelle d'Agrevaille, aussi une très bonne rentrée, car c'est aussi une rentrée pour tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Vivante Église. Grandir dans la confiance.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.